La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Le livre de Luc, chapitre 2, versets 25 à 38. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle était survenue, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et elle parla de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Merci beaucoup, Astrid, pour cette lecture limpide de ce texte qui fait partie de l'évangile de Luc. Vous vous souvenez, nous sommes le mois d'octobre, mois de la personne âgée. Dans l'Antiquité, on distinguait 3 âges, la jeunesse, la maturité et la vieillesse, d'où l'expression « troisième âge ». 1er octobre est le jour international de la personne âgée, et c'est pourquoi donc le département famille a fait du mois d'octobre le mois de la personne âgée. Survient cette question, à quel âge est-on vieux ? Pour les démographes, on est vieux à 65 ans, un chiffre totalement arbitraire relatif à la loi de 1945 qui fixe le départ à la retraite à 65 ans. Ainsi, qui dit personne âgée dit retraité et vice-versa. Je peux voir la main des retraités ici présents. Allez-y. Soyez fiers. Ok, il y en a une bonne portion. En 1962, lors de la publication du rapport Larocque sur la problématique de la vieillesse, les personnes âgées sont les personnes de 65 ans et plus. Mais là, ce rapport convenait de l'inadéquation de cette catégorisation, étant donné que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Pour en tenir compte, les spécialistes ont proposé de remplacer le seuil fatidique de 65 ans par un seuil évolutif d'entrée dans la vieillesse, calculé à partir de l'âge auquel il reste encore 10 ou 15 ans à vivre. Mais qui sait s'il lui reste encore 5, 10, 15 ou plus d'années à vivre. Bon, une étude publiée dans la revue PLOS ONE révèle ainsi qu'en 1900, une Française était considérée comme vieille à l'âge de 58 ans. 65 ans en 1956 et 75 ans en 2012. Cela est dû à l'évolution de la pyramide des âges dans les sociétés modernes. C'est pourquoi certains sociologues distinguent maintenant 3 sous-catégories de personnes âgées. Il y a les young old, les jeunes vieux, de 65 à 74, les old, les vieux, de 75 à 84, et les old old, les vieux vieux, de 85 ans et plus. Je n'invente pas, hein. Mes sources sont très, très sérieuses. Mais tout est tellement relatif. Selon un sondage réalisé par Opinionway en 2014, les Français situent à 70 ans l'âge moyen où l'on devient vieux. C'est une estimation subjective puisque ce seuil augmente avec l'âge des interrogés. Pour les 10-17 ans, on est vieux à partir de 46 ans. J'échappe. Pour les 18-24 ans, à 56 ans. Et pour les 50-65 ans, la vieillesse débute seulement à 77 ans. À noter que 26% des interrogés estiment toujours qu'on devient vieux quand on part à la retraite. Ça fait un quart des personnes interviewées. 22% quand on ne connaît plus les chanteurs qui passent à la radio. Et 18%, un petit cinquième, quand on commence à avoir des rides ou des cheveux blancs. Conclusion. La vieillesse est une notion toute relative. C'est pourquoi le vocabulaire a changé. Les personnes âgées aujourd'hui ne sont plus des vieux, mais des seniors. Ah, c'est beau ça. Alors ce néologisme est venu d'outre-Atlantique à la fin des années 80 pour euphémiser, c'est-à-dire adoucir l'expression « personnes âgées ». Pire encore, « vieux ». En latin, le terme « senior » signifie « plus âgé ». C'est un comparatif. « Senior » veut dire « plus âgé ». Mais plus âgé que qui ? Il faut dire que le mot « senior » est employé surtout dans le monde du travail. Pour les cabinets de recrutement et les entreprises, on est senior à 45 ans. Et pour la Fédération française d'athlétisme, on est senior à 23 ans. Dans le contexte médical, c'est à partir de 70 ans qu'on devient senior. Car selon les médecins, les problèmes de santé s'accumulent à cet âge-là. Et de la même façon, différentes études montrent qu'en réalité, les gens se définissent comme seniors seulement à partir de 70 ans et comme vieux, s'il faut utiliser cet adjectif, à partir de 85 ans. Mais ils préfèrent alors le terme d'aîné. Aîné voulant dire, somme toute, plus âgé, tout comme senior. Revenons maintenant au texte biblique. Le récit de Luc, il faut le reconnaître, est un récit sublime. Un très beau texte qui nous fait découvrir deux personnes âgées. Certains n'hésitent pas à dire deux vieillards. Donc deux personnes très vieilles. Un homme et une femme. L'un et l'autre sont du troisième âge, ou plus exactement, selon les critères d'aujourd'hui, du quatrième âge. Ils ont probablement, enfin, pour Anne c'est sûr, plus de 80 ans. Et Siméon, lui, est proche de la mort, puisqu'il dit « maintenant je peux mourir ». Siméon sent qu'il va bientôt mourir. Et Anne a quand même un bel âge, n'est-ce pas ? 84 ans. Ces deux personnes accomplissent la parole de Job. Job 12, verset 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. Dans leur sagesse, cet homme et cette femme, tous deux avancés en âge, reconnaissent le mystère du Christ. Ils en témoignent devant le peuple entier, devenant par là même les premiers prédicateurs de l'Évangile. Oui, c'est aux bergers que les anges ont annoncé la naissance de Jésus. À cette annonce, les bergers se sont rendus à Bethléem afin de voir ce qui était arrivé. Ils ont fait connaître aux parents ce que l'ange leur avait dit au sujet de l'enfant et sont repartis glorifiant et louant Dieu. Mais c'est à deux personnes âgées qu'a été accordé le privilège de parler de Jésus devant les adorateurs du temple et de témoigner de sa personne et de son œuvre. De Siméon, il est dit qu'il était juste et pieux, qu'il attendait le salut d'Israël et que l'Esprit Saint reposait sur lui. Quatre qualités qui le distinguaient. En premier lieu, il était juste. C'est dit au verset 25. Juste. C'est-à-dire qu'il agissait avec justice envers son prochain et qu'il entretenait une relation juste avec Dieu. En deuxième lieu, il était pieux. C'est-à-dire qu'il aimait Dieu de toutes ses forces et que tout son être était tourné vers lui. En troisième lieu, il attendait le salut, ou pour utiliser le terme du verset 25, la consolation d'Israël. Voilà un terme intéressant, consolation d'Israël. C'est en Jésus que Siméon reconnaît eh bien, ce à quoi il aspire depuis si longtemps. Lorsque ce vieil homme sage reçoit l'enfant dans ses bras, il voit en lui la lumière qui éclaire les humains et le salut des nations. Enfin, Siméon est habité par l'Esprit Saint. C'est pourquoi il arrive à point nommé dans le temple, ni trop tôt ni trop tard, et discerne dans l'enfant la lumière de Dieu, le Sauveur appelé à délivrer son peuple. Telle est assurément la mission première des aînés, nous indiquer la lumière qui brille, parmi nous. Les gens âgés peuvent voir au-delà des apparences et percevoir le fond des choses, parce qu'ils ne sont plus attachés à l'image, au caractère physique des manifestations de la vie. Dieu peut leur donner d'entrevoir la lumière, fût-ce à travers le voile qui l'enveloppe. Siméon distingue cette lumière dans un petit enfant de peu d'apparence et discerne en lui le plan du salut. Ce tableau nous renvoie au dernier verset du psaume 92, connu comme étant le psaume du sabbat. Mais à la fin, nous lisons dans ce psaume, « Les justes croissent comme le palmier. » C'est au verset 13 à 16. « Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, comme des chênes. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » On voit que ce verset concerne bien Siméon et Anne. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Aux côtés de Siméon se tient Anne. C'est intéressant, un homme, une femme. Anne, la prophétesse, une veuve âgée de 84 ans, qui fut mariée pendant 7 ans à un homme qu'elle a certainement beaucoup aimé. Cette femme âgée ne quitte pas le temple, servant Dieu nuit et jour, nous dit-on dans ce passage, et dans le jeûne et la prière. En fait, elle réalise l'idéal de la veuve, tel que Paul va le décrire en 1 Timothée 5, verset 5, quand il dit « Celle qui est véritablement veuve, hein, sous-entend la veuve chrétienne, et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu, et persévère nuit et jour, dans les supplications et les prières. » C'est ce que faisait Anne, la prophétesse. Les personnes âgées, nos aînés, sont appelées à prier pour l'Église de Jésus-Christ, notamment pour tous ceux à qui le temps de prier fait défaut. Dieu leur confie en particulier le ministère de la prière et du jeûne parce qu'ils sont plus disponibles, moins dépendant des choses matérielles que les plus jeunes. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne doivent pas prier, évidemment. Mais leur vie est souvent une vie stressante, harassante, avec des contraintes qu'il est parfois impossible à tenir. Dans son cœur, Anne est entièrement ouverte à Dieu. Au travers de sa vie, elle exprime quelque chose d'indicible, de précieux. elle s'adresse aux hommes qui soupirent après la délivrance et leur enseigne à se libérer des contraintes et des esclavages de ce monde. Elle est disponible devant Dieu, jour et nuit. Elle est là pour faire la volonté de Dieu. Toute la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Quant à cet homme, Siméon, et cette femme, Anne, tous deux foragés, manifestement très sages, ils perçoivent l'un et l'autre le mystère de Jésus et à travers lui l'œuvre de Dieu. Ils portent sur l'enfant un regard empreint aussi de reconnaissance. Et alors, le vieux Siméon nous offre un chant extraordinaire. Versets 29 à 32. Il reçoit l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Il faut noter que Siméon s'inspire directement du livre du prophète Ésaïe qu'il a certainement médité toute sa vie. Je vous cite trois versets du livre du prophète Ésaïe. Chapitre 40, verset 5. « La gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Vous avez Ésaïe 46, 13. « Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut et ma gloire sur Israël. » Et encore un autre verset d'Ésaïe, chapitre 49, verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » On peut même ajouter Ésaïe 52, 10. « Toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. » Vous voyez, plusieurs versets qui convergent et qui donc sont résumés dans le chant de cet homme âgé nommé Siméon. Désormais satisfait, Siméon est prêt à mourir car il a vu celui qui rassemble en un tout les fragments de son existence. À présent, il peut se retirer. À travers sa foi et son expérience, il a montré aux hommes la lumière qui les éclaire. Il a accompli sa mission, une mission faite d'amour, dont le souvenir reste à jamais gravé. Et tournant les regards vers l'avenir, il parle de Jésus. Il voit que ce dernier sera aussi un sujet de contradiction. Il perçoit ce qui adviendra à Marie quand il lui dit « À toi-même, une épée te transpercera le cœur, l'âme » au verset 35. Jésus, signe de contradiction. Jésus, étant là aussi dans ce monde, au milieu d'un combat, entre les ténèbres et la lumière. Siméon ne dépeint pas un monde utopique. Il voit l'avenir avec ses heures propices, certes, mais aussi les temps de crise et l'adversité. Il nous apprend que la vie ne réussit pas sans effort et qu'elle requiert un sacrifice perpétuel. Notre parcours ne cesse d'être contrarié, que ce soit par autrui, par les événements, imprévus bien souvent, ou des revers de fortune. Certes, nous sommes affectés, mais c'est ainsi, selon le plan de Dieu, que s'accomplit notre salut. C'est ainsi que nous accédons au sens profond de l'existence. À travers Siméon et Anne, Dieu décrit deux personnes âgées qui, parce qu'elles ont atteint la sagesse, sont un bienfait pour autrui et pour l'humanité. Investi d'une mission importante auprès des hommes, il ne se contente pas de leur indiquer le chemin menant au salut et à la lumière. Il leur sert aussi de modèle, en leur offrant une vie réussie en exemple. La vie est toujours réussie quand la fin est réussie. Ils peuvent dire avec assurance « Mes yeux ont vu ton salut ». C'est le verset 30. Le geste de Siméon qui bénit les jeunes parents, d'abord il bénit Dieu, mais après il va bénir les parents et l'enfant. eh bien, donne tout son sens finalement à la vieillesse. Devenus sages, les anciens peuvent propager le bonheur. Par leur présence, ils renvoient à Dieu qui bénit notre existence et de maintes façons la rend féconde. Vous savez comme les personnes âgées sont importantes dans une famille ? On l'ignore trop peu. Je parle là des grands-parents et voire des arrière-grands-parents. Ils apportent une sérénité, un équilibre dont la famille d'aujourd'hui manque cruellement. Dieu a choisi une personne âgée pour bénir Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Dans la Bible, l'âge est un avantage, un privilège, pas une tare, pas un handicap. Comme le dit si bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hébreux 7, verset 7. Les seniors sont là pour bénir les plus jeunes et en cela donner aussi l'exemple. Bénissez ! Le verset dit « ceux qui vous persécutent ». Oui, parfois les jeunes aussi nous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Ça, c'est le devoir, la mission des aînés, des seniors, des personnes âgées, vous les appelez comme vous voulez. Parce qu'on fait littéralement fuir les jeunes et les enfants quand on les maudit. Quand on dit du mal d'eux, quand on estime qu'ils, quand on trouve qu'ils nous dérangent, qu'ils nous bousculent, et quand on se plaint d'eux. Souvenez-vous du défi numéro 6. Pour ceux qui ont des enfants, ce ne sera pas simple de ne pas se plaindre pendant une journée, plusieurs jours, voire une semaine. On fait littéralement fuir les enfants, je vous le rappelle, quand on est jeune, quand on les maudit, même par derrière, hein, pas besoin de les maudire en face, ils le sentent. C'est comme de la graine sur des jeunes pousses, les dégâts sont considérables. Alors comment parvenir à cette sagesse qui nous permet à un âge avancé de contribuer au bonheur de notre entourage ? Car l'expérience nous enseigne que les gens âgés ne sont pas tous des sages et que d'aucuns sont des êtres insatisfaits, aigris, dont la seule raison d'être est de tyranniser autrui. Ma femme qui a une certaine expérience en maison de retraite et d'autres ici pourraient le confirmer. En latin, sage se dit sapiens, celui qui sait, celui qui a la sagesse, d'où homo sapiens ou sapiens sapiens, qui vient du verbe sapere. Et là, tiens, surprise, le verbe sapere veut dire avoir du goût, être savoureux aussi. Est sage celui qui, parce qu'il trouve goût à son existence, est apprécié de ceux qui croisent son chemin. Il sait que son existence vaut la peine d'être vécue. Simon dit « Je n'ai pas vécu en vain, j'ai vu le salut de Dieu. » Le sage est heureux de vivre et est en harmonie avec lui-même, d'où ce goût de paix, de liberté, de calme et de sérénité qui émane de lui. Il est celui qui, dans la confiance de la foi, s'écrie « Mes yeux ont vu ton salut. » Voilà pourquoi la parole de Dieu honore à ce point les cheveux blancs. Proverbe 16, 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe 20, verset 29, la force et la gloire des jeunes gens. Les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards, des seniors, si vous préférez. D'où la déférence et le respect qui sont dus aux personnes âgées. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 32. Honorer les personnes âgées revient à honorer Dieu lui-même, car Dieu est une personne âgée, ornée de cheveux blancs. Vous avez déjà pensé à ça ? Certes, il a la vigueur d'un jeune homme, mais que ce soit le père ou le fils, les deux apparaissent en vision aux prophètes Daniel et Jean avec des cheveux blancs. C'est significatif dans la parole de Dieu. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête comme de la laine. Vous avez entendu, pure, blanche. Dans Apocalypse 1, 14, et là on décrit le ressuscité, hein, dans sa gloire, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. On ne peut pas être plus précis. dans le temple de Jérusalem, à ce moment-là, au moment du récit, trois générations se sont rencontrées. Anne et Siméon, Joseph et Marie, un jeune couple, et Jésus, le nouveau-né. Dieu aime toutes les générations et aspire profondément à les voir réunies dans sa maison. Chacun ayant son rôle à jouer, bien sûr. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis de l'Église, c'est de réunir les jeunes et les seniors dans l'adoration, le « reach up », se tourner vers Dieu, selon le programme de notre Église mondiale, dans la fraternité, le « reach in », les uns vis-à-vis des autres, et la mission, le « reach out », aller vers l'extérieur, rencontrer les gens là où ils sont. Alors que notre société est de plus en plus sophistiquée, qu'elle creuse un fossé de plus en plus profond entre les générations, l'Église doit s'efforcer, tant bien que mal, de combler ce fossé en créant des liens d'amour et de sens entre les générations. Les anciens, ils ont la sagesse. C'est un mélange de connaissances et d'expériences. Ils peuvent dire « Mes yeux ont vu ton salut ». Mais peu de force, en tout cas de moins en moins. Ils ont du temps. Ils peuvent plus facilement venir au temple, se rendre disponibles. Mais de moins en moins, voire plus beaucoup de potentiel. Les jeunes, eux, ils ont de la force. Ils peuvent dire « La joie de l'Éternel est notre force », Néhémie 8:10, mais peu de sagesse souvent, dans leur fougue. Ils ont du potentiel. Ils peuvent dire « Avec Dieu, nous ferons des exploits », Psaume 60, verset 14, mais souvent, ils manquent de temps. Un jour, ils sont là, un jour, ils ne sont pas là. On parle aujourd'hui de fluidité, des nouvelles générations. De génération liquide, vous avez déjà entendu parler de ça? Vous voyez bien, ils sont là, ils ne sont pas là, c'est comme ça. Les personnes âgées, elles, sont intuitives, averties, pondérées. Les jeunes sont créatifs, ambitieux, zélés. Autrement dit, les uns ont besoin des autres. Mais étant donné qu'aujourd'hui, presque tout les sépare, les écrans, les vêtements, le langage, la musique, les centres d'intérêt, les loisirs, les lieux de rencontre, les styles de vie, etc., on ne voit plus très bien comment on peut les réunir. Il nous faut donc revenir au principe d'unité qui rassemble toutes les générations. Et là, les anciens, les sages ont un rôle important à jouer pour montrer la lumière et le chemin à tous. Ce principe d'unité, c'est l'amour de Jésus. Il ne suffit pas de le savoir, il faut le mettre en action. Vous voyez, Jésus lui-même a été l'exemple. À l'instar de Siméon et d'Anne, il a béni, au cours de son ministère, des enfants, des parents, des adolescents. Il s'est intéressé à eux, les a secourus. Vous voyez, la jeune fille de 12 ans, il a relevé, à qui il a dit « Voilà, maintenant il faut que tu manges, prends soin de toi. » Et d'autre part aussi, Jésus était soumis aux plus âgés, à ses parents et aux personnes qui avaient de l'autorité. L'amour de Jésus peut seul réunir toutes les générations de tous les temps en une seule foi, en une seule espérance, en un seul amour. Et c'est alors que toutes les générations soudées par le même esprit pourront témoigner ensemble avec conviction et dire « Mes yeux ont vu ton salut. » Amen.